Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, expérience première, erreur première, le pittoresque.
Comment la vocation d'électricien est venue à Simmer? Cet auteur avait remarqué que depuis quelque temps, qu'en ôtant ses bas le soir, il pétillait et que, dans l'obscurité, il en voyait sortir des étincelles. Il ne doute pas que cela ne vint de l'électricité.
Dans nos classes élémentaires, le pittoresque et les images exercent des ravages. Dès qu'une expérience se présente avec un appareil bizarre, en particulier si elle vient sous un nom inattendu, des lointaines origines de la science, comme par exemple l'harmonica chimique, la classe est attentive aux événements. Elle omet seulement de regarder les phénomènes essentiels. Elle entend les beuglements de la flamme, elle n'en voit pas les stries. S'il se produit quelque accident, triomphe du singulier, l'intérêt est à son comble. Par exemple, pour illustrer la théorie des radicaux en chimie minérale, le professeur a fait de l'iodure d'ammonium, en passant plusieurs fois de l'ammoniac sur un filtre couvert de paillettes d'iode. Le papier filtre, séché avec précaution, expose ensuite au moindre froissement tandis que s'écarquillent les yeux des jeunes élèves. Un professeur de chimie psychologue pourra alors se rendre compte du caractère impur de l'intérêt des élèves pour l'explosion, surtout quand la matière explosive est obtenue si facilement. Il semble que toute explosion suggère chez l'adolescent la vague intention de nuire, d'effrayer, de détruire. J'ai interrogé bien des personnes sur leurs souvenirs de classe. À peu près une fois sur deux, j'ai retrouvé le souvenir de l'explosion en chimie. La plupart du temps, les causes objectives étaient oubliées. Mais l'on se rappelait la tête du professeur, la frayeur d'un voisin timide. Jamais la frayeur du narrateur n'était évoquée. Tous ces souvenirs, par leur alacrité, désignaient assez la volonté de puissance refoulée, les tendances anarchiques et sataniques, le besoin d'être maître des choses pour opprimer les gens. Quant à la formule de l'iodure d'ammonium, et à la théorie si importante des radicaux que cet explosif illustre, elle n'entre point, est-il besoin de le dire, dans le bagage d'un homme cultivé, fût-ce par le moyen de l'intérêt très spécial que suscite son explosion. Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique.
Fasciné par l'explosion en classe de chimie, l'enfant a oublié pourquoi elle a eu lieu, ce qui, scientifiquement, était en jeu, ce qu'il fallait démontrer. Voile de fumée, souvenir écran. Mais les premiers savants aussi se sont arrêtés souvent aux faits colorés et divers, à l'anecdote, au pittoresque, s'empêchant ainsi de saisir les phénomènes rationnellement, de déterminer des lois. Bachelard constate que dans le développement historique de la pensée, comme dans la pratique de l'éducation, l'esprit scientifique se constitue non pas en continuité, mais en rupture avec ce qui le précède, les impressions premières, les intuitions, les prénotions, les illusions. Voici, sur ce thème, un extrait d'un entretien avec Michel Tournier, datant du 21 mars 1951, et une causerie, enregistrée le 9 novembre 1949. Gaston Bachelard y reprend les thèses qu'il a développées dans son livre épistémologique le plus célèbre, La formation de l'esprit scientifique.
Je visais surtout l'effort pédagogique nécessaire pour la formation de l'esprit scientifique. Et j'essayais de montrer que la culture scientifique doit vaincre d'abord de paresseuses habitudes d'esprit, qu'elle doit s'opposer à des satisfactions naïves. J'ai cru pouvoir parler ainsi d'une véritable psychanalyse de la connaissance objective. Je suis revenu sur la question
dans mon livre sur le rationalisme appliqué, où j'ai essayé de m'opposer à la traditionnelle liaison entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. À mon avis, la connaissance scientifique pose désormais la nécessité d'une totale réorganisation du savoir.
Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes, comme la complexité, la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain. C'est dans l'acte même de connaître, intimement, qu'apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle des lenteurs et des troubles. C'est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression. C'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n'est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. La pensée empirique est claire après coup, quand l'appareil des raisons a été mis au point. En revenant sur un passé d'erreur, on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel. En fait, on connaît contre une connaissance antérieure en détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle à la spiritualisation. L'idée de partir de zéro pour fonder et accroître son bien ne peut venir que dans des cultures de simple juxtaposition où un fait connu est immédiatement une richesse. Mais devant le mystère du réel, l'âme ne peut se faire par décret ingénu. Il est alors impossible de faire d'un seul coup table rase des connaissances usuelles. Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé.
Au début du livre La formation de l'esprit scientifique, Bachelard dit « C'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. »
Dominique Lecour.
En termes d'obstacles, et non pas, voyez, en termes de déduction, application de loi, etc. L'une des erreurs le plus souvent commise sur la notion d'obstacle consiste à l'interpréter comme si, en somme, il y aurait une lutte éternelle de la lumière scientifique contre l'obscurité ténébreuse des désirs et des instincts qui s'opposeraient à l'avancée des lumières. Ça, c'est l'interprétation de Bachelard, que j'appelle rationaliste plate, rationaliste étroite, et contre laquelle il s'est toujours élevé, et qui consisterait à présenter l'histoire des sciences comme une longue lutte de la vérité contre l'erreur, la vérité triomphant finalement par ses forces de l'erreur. Ce qui caractérise vraiment la notion d'obstacle épistémologique chez Bachelard, c'est que il présente l'obstacle comme interne à la pensée même. C'est, dit-il, une contre-pensée, mais dans la pensée même. Et il invite aussi bien les historiens des sciences que, surtout dans le livre « La formation de l'esprit scientifique », les pédagogues, à s'interroger sur cette intériorité de la contre-pensée dans la pensée. Or, cette contre-pensée dans la pensée, il la montre dans ce livre, plutôt qu'il ne l'explique, qu'il ne l'analyse. Mais si vous réfléchissez sur tous ces chapitres apparemment un peu disparates, vous vous apercevez que cette contre-pensée dans la pensée, elle s'insinue à travers des mots, via le langage. C'est-à-dire que pour Bachelard, les mots sont chargés d'imaginaire, chargés d'affectivité. Ils sont l'écho toujours de poussées instinctives. Et le scientifique, si mathématisé que soit sa discipline, parlant toujours dans le langage ordinaire ou à un moment ou à un autre, il est, par les mots, toujours assiégé dans sa pensée par des éléments,
des images.
Mmh. Ouais, mais au sens où Bachelard entend images comme des productions quasiment vivantes d'un pouvoir de l'imaginaire qui fait partie du psychisme humain.
Et alors il faut quoi, remplacer les mots par les chiffres ?
Les mathématiques, c'est une excellente question. Les mathématiques pour Bachelard, d'abord, elles ont en elles-mêmes une puissance de création et en même temps, elles arrêtent les poussées de contre-pensée, elles sont un dispositif de sécurité qui fait qu'à un moment donné, elles peuvent faire barrage contre ce qui est véhiculé par le langage ordinaire.
Un dispositif de neutralisation.
De neutralisation, oui. Alors, la diversité des obstacles renvoie à cette tension, cette dialectique.
La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion. De sorte que l'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. En désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter.
Nous allons consacrer quelques causeries à donner des exemples de ces obstacles épistémologiques. Le premier est sans doute le caractère pittoresque du phénomène naturel. Le phénomène naturel éveille une curiosité qui n'est pas toujours la bonne racine de l'intérêt scientifique. Au XVIIIe siècle, au moment où la curiosité est la plus grande pour les phénomènes électriques, on voit s'établir une sorte de physique amusante, de physique mondaine, qui fait certainement tort à la recherche positive des lois. Il semble en effet qu'on se borne à jouir du caractère mystérieux de l'électricité, que le fluide électrique soit une matière d'émerveillement. Un auteur du temps n'hésite pas à écrire « L'électricité paraît rassembler en elle tous les agréments de la fable, du conte, de la féerie, du roman, du comique ou du tragique. On n'hésite pas à expliquer les tremblements de terre par la décharge électrique. Et l'on en donne la preuve suivante qui doit convaincre facilement le premier spectateur venu. On place des maisonnettes de papier sur une plaque métallique. Elles sont facilement renversées par la décharge électrique. Le remède est vite trouvé. En garnissant de pointe la plaque de cuivre, tout le paysage figuré échappe au cataclysme. C'est sur cette pauvre image qui peut amuser des enfants que l'abbé Bertholon a proposé de garnir la terre de paravolcans, de para-tremblements de terre. Le caractère fortuit des premières expériences peut tromper sur les raisons profondes des phénomènes. Voyons par exemple comment la vocation d'électricien est venue à Simmer. Cet auteur avait remarqué que depuis quelque temps, qu'on entend ses bas le soir, il pétillait et que, dans l'obscurité, il en voyait sortir des étincelles. Il ne doute pas que cela ne vint de l'électricité. Et après avoir fait un grand nombre d'observations pour déterminer de quelles circonstances dépendaient ces sortes d'apparences électriques, il pensa enfin que c'était la combinaison du noir et du blanc qui produisait cette électricité et que ces apparences n'étaient jamais si fortes que lorsqu'il portait un bas de soie blanc et un noir sur la même jambe. En variant davantage l'expérience, on eut facilement constaté que les couleurs n'ont pas d'action sur la production de l'électricité. Il faut dépouiller les phénomènes d'un grand nombre de caractères parasites pour en trouver les véritables variables mathématiques qui serviront à la fois à la mesure précise des phénomènes et à la détermination algébrique des lois. Un dernier exemple nous mettra en face de l'alternative qui se pose sans cesse dans la formation d'un esprit scientifique. L'alternative de physique pittoresque et de physique raisonnée. Des auteurs voulant intéresser des amateurs, des électrisants et des électrisantes, comme on disait au XVIIIe siècle, plantaient des fils légers dans la balle de sureau électrisée pour rendre plus pittoresques les expériences d'attraction et de répulsion électrique. On désignait cette expérience du nom d'araignée électrique. La physique raisonnée cherche au contraire à caractériser mathématiquement les phénomènes de répulsion et d'attraction. Dans cette vue, le pendule électrique est perfectionné techniquement et est remplacé par la balance de Coulomb. Cet appareil vraiment scientifique a permis à Coulomb de trouver la loi exacte des attractions et des répulsions électriques. Il en a donné la formule algébrique en disant que ces attractions ou ces répulsions se faisaient en raison inverse du carré des distances. Cette loi de Coulomb nous met en présence d'un instant décisif de la culture scientifique. Dans la formation de l'esprit scientifique, il faut donc opter pour les intérêts mathématiques en luttant contre cet obstacle épistémologique d'une curiosité qui entraîne l'esprit dans le monde des apparences pittoresques et fugitives.
Montrant comment la technique qui a construit la lampe électrique à fil incandescent rompt vraiment avec toutes les techniques de l'éclairage en usage dans toute l'humanité jusqu'au XIXe siècle. Dans toutes les anciennes techniques, pour éclairer, il faut brûler une matière. Dans la lampe d'Edison, l'art technique est d'empêcher qu'une matière ne brûle. L'ancienne technique est une technique de combustion. La nouvelle technique est une technique de non-combustion. Dans une technique de non-combustion, Edison crée l'ampoule électrique, le verre de lampe fermé, la lampe sans tirage. L'ampoule n'est pas faite pour empêcher la lampe d'être agitée par les courants d'air, elle est faite pour garder le vide autour du filament. La lampe électrique n'a absolument aucun caractère constitutif commun avec la lampe ordinaire. Le seul caractère qui permet de désigner les deux lampes par le même terme, c'est que toutes deux, elles éclairent la chambre quand vient la nuit. Pour les rapprocher, pour les confondre, pour les désigner, on en fait l'objet d'un comportement de la vie commune. Mais cette unité de but n'est une unité de pensée que pour celui qui ne pense pas autre chose que le but. C'est ce but qui majore les descriptions phénoménologiques traditionnelles de la connaissance. Souvent, les philosophes croit se donner l'objet en se donnant le nom, sans bien se rendre compte qu'un nom apporte une signification qui n'a de sens que dans un corps d'habitude. L'histoire effective est là pour prouver que la technique est une technique rationnelle, une technique inspirée par des lois rationnelles, par des lois algébriques. On sait bien que la loi rationnelle qui règle les phénomènes de la lampe électrique à incandescence est la loi de Joule qui obéit à la formule algébrique W égale RI puissance 2 petit t. W énergie, R résistance, I intensité, petit t temps. Voilà un exact rapport de concept bien défini. W s'enregistre au compteur, RI puissance 2 petit t se dépense dans la lampe. L'organisation objective des valeurs est parfaite. Bien entendu, la culture abstraite a barré les premières intuitions concrètes. On ne dit plus, on pense à peine, que du feu et de la lumière circulent dans le filament éblouissant. Nous pouvons donc bien affirmer que l'ampoule électrique est un objet de la pensée scientifique. À ce titre, c'est pour nous un bien simple mais bien net exemple d'un objet abstrait concret. Pour en comprendre le fonctionnement, il faut faire un détour qui nous entraîne dans une étude des relations, des phénomènes, c'est-à-dire dans une science rationnelle exprimée algébriquement. Gaston Bachelard, le rationalisme appliqué.
La notion de rupture épistémologique, qui est corrélative, elle désigne à la fois, dans l'histoire des sciences, des moments où se constitue un domaine scientifique nouveau, c'est-à-dire que c'est une thèse de discontinuité, et en même temps, elle désigne cette sorte d'assaise, et puis on est obligé d'employer un vocabulaire moral, ou éthique, qui est nécessaire à une bonne pédagogie scientifique. Bachelard explique à longueur de page, contre toutes les opinions pédagogiques les mieux accréditées, que pour enseigner à un élève la physique ou la chimie quand il est en seconde, ou en première, eh bien, il ne faut pas commencer par les images de la vie courante. Si on veut lui donner le sens de ce qu'est un problème scientifique, de ce qu'est un concept scientifique, il faut se refuser cette soi-disant commodité pédagogique qui est en fait une catastrophe épistémologique. Et il faut lui montrer que il faut rompre avec les intérêts de la connaissance commune. Il faut, derrière les mots même du langage scientifique, chercher le concept et se détourner de toutes les associations imaginaires qui charrient.
J'aime bien votre mot d'assaise, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut une espèce d'épuration.
Oui. C'est pas pour rien qu'il écrit un livre qui s'appelle « La philosophie du non ». J'ai souvent insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une extension philosophique de la fonction non, si je puis dire, à l'œuvre dans la constitution des géométries non euclidiennes, de la mécanique non newtonienne, et de la logique non aristotélicienne, etc. C'est vrai, mais il y a aussi une connotation éthique. Par cette assaise, l'esprit gagne un tonus qu'il n'a pas par ailleurs. Il gagne un dynamisme particulier qui est le dynamisme de la création des valeurs épistémologiques qui se constituent dans la connaissance scientifique. C'est-à-dire que l'esprit s'accroît. Il y a une conception de la vie de l'esprit qui n'est pas spiritualiste, puisque il s'agit de la vie de l'esprit scientifique et que aucun raccord n'est possible ni souhaitable pour Bachelard entre ce type d'accroissement dans le domaine épistémologique et puis le type d'accroissement qu'il peut aussi avoir dans le domaine imaginaire et poétique. Il n'y a pas d'unité de l'esprit posée auparavant. Il y a ce mystère infiniment séduisant, fascinant, d'activité psychique contrastée, tendues l'une contre l'autre, en rivalité l'une contre l'autre, et irréductibles l'une avec l'autre. Alors, ceci pose le problème de la dualité de l'œuvre de Bachelard, sur laquelle on a beaucoup glosé, mais voyez que dans l'association obstacle et rupture épistémologique, c'est cette question-là qui est en jeu, au fond.
À la notion d'obstacle épistémologique, j'associe maintenant la notion toute positive d'acte épistémologique. Une fois surmontés les obstacles épistémologiques, il faut aborder cette tâche si psychologiquement nouvelle, si positive, d'instruire effectivement l'esprit avec des phénomènes nouveaux, tels que les phénomènes de l'électricité, des radiations.
En effet, car il y a un progrès scientifique, et tout progrès suppose une accumulation. Il faut donc que chaque invention nouvelle, si elle détruit quelque chose, conserve néanmoins l'essentiel des idées précédentes. Et alors, je voudrais vous demander comment se fait le départ entre ce que nous pourrions appeler le socle immuable, le canon de cette science, et, d'autre part, ce qui devra faire place nette aux acquisitions nouvelles.
Votre terme d'accumulation ne donne pas une bonne image du caractère éminemment progressif de la science. Depuis le début du XXe siècle, on sent bien plutôt en action une essentielle réorganisation de la science. On peut dire que la science contemporaine est toujours en voie de réorganisation. Et c'est pourquoi ceux qui vivent du dehors les changements de la science théorique ou pratique parlent souvent de crise de la pensée scientifique. Le terme de crise n'est pas adéquat. Toute réorganisation est une évidente amélioration de l'organisation antécédente. Il n'y a pas de socle immuable. Toute base ancienne devient fatalement trop étroite du fait des progrès de la science. La science actuelle est vraiment un acte. Elle porte vraiment le grand signe du progrès effectif. C'est une des plus hautes valeurs humaines.
C'était Expérience première, Erreur première, Le pittoresque. Document INA, Gaston Bachelard, Causerie, 1949. Entretien avec Michel Tournier, 1951. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Avec la participation de Dominique Lecourt. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Michel Créis. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Archives 1947-1962. Cette semaine, la pensée grecque et l'esprit scientifique. Aujourd'hui, l'astronomie dans la Grèce antique et l'évolution des sciences au Moyen-Âge, 1954.
Quand on veut donner un rapide dessin de l'évolution des idées touchant l'astronomie dans l'Antiquité, on ne trouve pas vraiment un développement linéaire prouvant un progrès régulier. Les cosmologies donnent à tout bon compte des vues générales sur le monde. Les philosophes trouvent
trop facilement un système du monde. Des hypothèses qui pourraient servir utilement à coordonner les observations cessent d'être exploitées. L'histoire de l'astronomie grecque, surtout à ses débuts, est ainsi, pourrait-on dire, une histoire faite d'épisodes de pensée, épisodes qu'il faut saisir dans leur unité plutôt que dans leur liaison. Parfois même, jugé de notre point de vue moderne, il semble que la science rétrograde. Par exemple, Anaxagore attribue à la Terre une forme plate, alors que Pythagore, plus d'un demi-siècle auparavant, lui attribuait la forme ronde. Il y a d'ailleurs une difficulté supplémentaire à comprendre les systèmes astronomiques de l'Antiquité. Cette difficulté vient de notre propre culture. Les notions élémentaires de l'astronomie moderne sont si bien enracinées dans la culture de tous les jours qu'on interprète bien souvent à la moderne les histoires et des doctrines anciennes. On ne se rend pas compte alors du prodigieux effort d'abstraction qu'il a fallu aux anciens pour trouver des coordinations des phénomènes astronomiques. Essayons de dégager la valeur de pensée des doctrines primitives en nous replaçant devant les difficultés d'une science sans tradition, d'une science sans passé. À elle seule, la notion de planète réclamait une attention dont nous sous-estimons l'acuité. Sur le fond des constellations qui se retrouvent immuables d'une nuit à l'autre, quelques astres manifestaient de légers déplacements. Sur le fond des étoiles en mouvement régulier, des astres errants, les planètes, manifestaient des mouvements individuels, des mouvements qui échappaient à la règle générale. Alors, quelle audace de pensée ne fallait-il pas pour chercher des lois touchant ces astres? L'astronomie grecque n'a connu que 5 planètes. Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne. Alors que toutes les constellations tournent d'un mouvement d'ensemble, les planètes tantôt marchent dans le sens général et tantôt paraissent rétrograder. Ces alternatives de mouvements directs et de mouvements indirects sont particulières à chacune des planètes. Ce sera précisément un difficile problème d'incorporer ces mouvements essentiellement divers dans une doctrine d'ensemble. Enfin, quelle audace de pensée n'a-t-il pas fallu pour considérer la Terre comme un astre, la Terre comme une planète? Nous ne pensons plus à cette initiale prouesse de l'esprit humain, nous qui parlons de voyage interplanétaire, nous qui lisons des romans fiction sur la vie dans la planète Mars. Précisément, les vrais problèmes astronomiques se présentent dès qu'on veut coordonner les rapports des astres, y compris la Terre, dans un même système astronomique. L'astronomie pythagoricienne est un bel exemple de cette organisation. Pour le pythagoricien Philolaus, 10 corps célestes tournent autour du feu central, car la philosophie pythagoricienne veut que le système du monde obéisse au nombre parfait, à la décade, qui est la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 des premiers nombres. Tourne autour du feu central d'abord la sphère des étoiles fixes, puis les 5 planètes, puis le Soleil et la Lune, et, notons-le explicitement, la Terre. Mais tout cela ne fait que 9 êtres sidéraux. Philolaus, on ajoute un 10e, l'antiterre. Les raisons de cette organisation sont, si l'on ose dire, uniquement philosophiques. Il ne faut donc pas, comme on le fait parfois, bien que le système astronomique de Pythagore est un système héliocentrique, et voir en Pythagore un précurseur de Copernic. En fait, dans le système des pythagoriciens, le Soleil n'est pas le centre du monde. Au centre du monde est un feu central dont il serait bien difficile de faire à la moderne un centre de référence pour des mesures astronomiques. L'astronomie pythagoricienne eut une influence dans le sens même des considérations philosophiques sur les nombres que je viens d'exposer. Chez Platon, c'est encore en fonction des méditations philosophiques sur les nombres entiers que sont indiquées les distances des divers astres à la Terre. D'une façon générale, l'astronomie grecque a longtemps souffert de l'impossibilité de se faire une idée un peu précise des distances qui séparaient les astres. Par exemple, un astronome aussi célèbre qu'Aristarque pense que le Soleil est 19 fois plus éloigné de la Terre que ne l'est la Lune. Alors que nous savons maintenant que le Soleil est non pas 19 fois, mais 400 fois plus éloigné de la Terre que ne l'est la Lune. À l'astronomie, toute arithmétique de Pythagore se substitue peu à peu ce que l'on peut appeler l'astronomie toute géométrique du cercle. Elle est d'inspiration aristotélicienne. Aristote impose aux astronomes, pour de nombreux siècles, l'obligation de décrire tous les mouvements du ciel par des représentations sphériques. Tous les astres doivent décrire des cercles, la courbe parfaite par excellence. À la perfection par le nombre chez les pythagoriciens, se substituait donc la perfection par la sphère chez les aristotéliciens. Dès lors, c'est comme un ensemble de mouvements de sphères homocentriques qu'est décrite la mécanique de l'univers. Eudoxe, un disciple de Platon, a fixé, sans trop d'erreur, la durée de révolution des sphères portant les planètes. Par exemple, il donne comme révolution zodiacale de Vénus la durée d'un an, qui est la durée à peu près fixée par l'astronomie moderne. Il fixe celle de Saturne à 30 ans, alors qu'elle est de 29 ans, 166 jours. Mais la grande question est de savoir autour de quel axe tournent les sphères. Notons sur ce point une opinion très moderne d'Aristarque de Samos, qui vivait vers l'an 280 avant Jésus-Christ. Au rapport d'Archimède, Aristarque de Samos pose trois thèses. Premièrement, la fixité absolue de la sphère des étoiles. Deuxièmement, la fixité absolue du Soleil dont le centre coïncide avec le centre de la sphère des étoiles fixes. Troisièmement, le mouvement annuel de la Terre sur une circonférence ayant pour centre le Soleil. Mais, comme pour bien des savants de l'Antiquité, il nous reste peu de documents concernant les preuves par lesquelles Aristarque légitimait ses thèses. En fait, le système héliocentrique d'Aristarque fut supplanté par des systèmes qui mettent la Terre au centre du monde et qui devaient aboutir au fameux système de Ptolémée. Avant de décrire ce système de Ptolémée, signalons les travaux du plus grand observateur astronomique de l'Antiquité. Il s'agit d'Hipparque de Rhodes, dont on fixe les travaux entre 160 et 120 avant Jésus-Christ. Hipparque est l'un des créateurs de la trigonométrie. Il fut le premier à se rendre compte de l'inégalité des saisons. Il découvrit la précession des équinoxes. Il fit un catalogue d'étoiles que Ptolémée n'eut qu'à enrichir. Claude Ptolémée
naquit dans la Thébaïde et vécut à Alexandrie. Il n'a sans doute aucune parenté avec les rois de la dynastie égyptienne. On repère les dates de la vie de cet astronome par ses observations astronomiques qui s'échelonnent de 127 à 150 ans après Jésus-Christ. Il eut le grand mérite de réunir de nombreuses mesures astronomiques d'Hipparque. Il trouva une assez bonne mesure de la distance de la Lune à la Terre. L'erreur faite ne dépasse pas la soixantième partie de la distance réelle. Mais voici l'essentiel de son système. La Terre immobile est au centre du monde. La Lune, l'astre le plus proche de la Terre, décrit un cercle parfait autour de la Terre. De même, le Soleil décrit un cercle beaucoup plus grand que celui de la Lune. Le système se complique pour rendre compte du mouvement précisément curieux des planètes. Chacune est mobile, effectivement, sur un petit cercle. Mais le centre de ce cercle n'est pas la Terre. Ce centre, tout géométrique, se déplace sur un cercle dont la Terre est le centre. Ce dernier cercle s'appelle le déférent de la planète considérée, le petit cercle sur lequel se déplace effectivement la planète, est nommé épicycle. Pour les deux planètes dites inférieures, c'est-à-dire pour les planètes dont les cercles différents sont plus petits que le cercle décrit par le Soleil, il y a un alignement constant de la Terre, du centre du différent et du Soleil. Mais cela serait très clair si on disposait à la radio d'un tableau noir. Les deux planètes inférieures sont Mercure et Vénus. Pour les planètes supérieures, Mars, Jupiter et Saturne, le dessin se complique encore. Mais le principe reste le même. Une planète se déplace sur son épicycle, le centre de l'épicycle étant entraîné en un mouvement circulaire centré sur la Terre. L'ouvrage de Ptolémée, qui s'appelait « La syntaxe mathématique », fut traduit en grec, du grec en arabe, en 827. On l'admira tant qu'on l'appela l'Almageste, le très grand. Titre que l'ouvrage a gardé dans les traductions latines. Il subit des retouches de détails au cours des siècles. Il faut commencer en venir à Copernic et à Galilée pour voir l'astronomie se réformer radicalement. Mais jusqu'à Copernic, on peut dire que l'astronomie grecque, résumée dans le système de Ptolémée, fut une règle de pensée pour d'innombrables observateurs.
Gaston Bachelard, 1954.
Il y a quelques mois, dans des causeries consacrées à l'alchimie du Moyen-Âge et à l'état des sciences au XIIe et XIIIe siècle, j'avais essayé de montrer comment la rénovation de la philosophie aristotélicienne au Moyen-Âge avait apporté la force de système nécessaire pour réunir des connaissances dispersées. Dans de nombreuses régions de la pensée, l'aristotélisme représentait le rationalisme indispensable à une coordination du savoir. Par exemple, l'alchimie, du fait qu'elle portait son attention aux qualités premières des quatre éléments, trouvait dans la physique d'Aristote les thèmes fondamentaux de sa doctrine des transmutations. Pour Albert le Grand,
au milieu du XIIIe siècle, avec les quatre esprits métalliques, on peut préparer une teinture capable de changer toute couleur dans le fond même de sa racine substantielle. On transforme ainsi l'argent en or. L'alchimie du Moyen-Âge totalise les leçons de la physique d'Aristote et de la science arabe. Mais c'est surtout la mécanique d'Aristote qui fournissait à la science du Moyen-Âge ses principes dominateurs. La mécanique d'Aristote règle le ciel et la terre. Elle est alors associée à l'astronomie de Ptolémée. Le système de Ptolémée, qui suppose la Terre immobile au centre du monde, est vraiment, dans toute la force du terme, un système. Il a une réelle valeur de coordination pour des observations astronomiques minutieuses. Les plus grands esprits du Moyen-Âge, des savants comme Robert Grosseteste et Roger Bacon, pensent le système de Ptolémée dans son harmonie géométrique parfaite. Le Moyen-Âge dispose ainsi d'une vision du monde claire et distincte, pourvue, semble-t-il, de vérifications astronomiques nombreuses et précises. Une science qui a une si haute tradition, une science qui s'unit à une philosophie si synthétique, peut se détourner d'une expérience minutieuse. Le Moyen-Âge, pourtant si progressif dans l'évolution de la technique, n'aborde que d'une manière sporadique les problèmes de l'expérimentation. D'autant plus importantes sont alors les tentatives d'un Robert Grosseteste et d'un Roger Bacon pour établir une doctrine de l'expérience physique fondée sur la géométrie. Dès le XIIIe siècle, un travail mathématique touchant la géométrisation de l'expérience physique se manifestait, qui légitime le jugement d'Étienne Gilson, en conclusion du chapitre qu'il consacre à Roger Bacon, où il dit « Par la réduction de la physique, de la physiologie et même de la sensation aux règles de la figure et du mouvement, c'est la réforme cartésienne elle-même que la philosophie du XIIIe siècle vient d'annoncer. L'évolution vers les notions scientifiques modernes devait cependant traverser un conflit plus profond, un conflit qui dépasse les données de l'intuition géométrique pour aborder les discussions sur le principe même du mouvement. Ce débat qui durera des siècles, que le Moyen-Âge et la Renaissance elle-même n'arriveront pas à conclure, sépare la mécanique aristotélicienne de la mécanique fondée sur un nouveau principe, le principe d'inertie. Le débat, pour l'esprit de notre temps, est très précis. La mécanique d'Aristote pose, en principe, que le mouvement d'un mobile finit par s'arrêter si une force cesse d'être appliquée au mobile. La mécanique moderne pose, en principe, que le mouvement d'un mobile, sur lequel on n'exerce pas actuellement une force, continue avec une vitesse constante en direction et en intensité. Le conflit est donc particulièrement net. L'expérience commune, disons-le, semble donner raison à Aristote. L'expérience scientifique, au contraire, s'organisera cependant de plus en plus rationnellement à partir du principe non aristotélicien. Historiquement, il faudrait entrer dans une infinité de détails pour revivre l'extrême difficulté de ce renversement radical du principe fondamental de la mécanique. Le XIVe et le XVe siècle sont remplis de discussions obscures où les idées nouvelles n'apparaissent que partiellement et par éclipse. Plutôt que de disperser nos remarques dans cette courte causerie, nous allons les concentrer sur les efforts de deux penseurs français du XIVe siècle, Jean Buridan
et Nicole Oren qui ont travaillé, plus ou moins consciemment, à la lente usure des doctrines aristotéliciennes et qui sont, à quelques égards, des précurseurs de la mécanique moderne. Jean Buridan est né à Béthune vers l'an 1300. En 1327, on le trouve recteur de l'Université de Paris. Il est chanoine à Arras en 1343. Il a dû mourir à Paris vers 1360. Disons, entre parenthèses, que Pierre Duhaine, qui a étudié en détail les travaux de Buridan, y compris ceux qui concernent le libre arbitre, déclare n'avoir trouvé aucune trace de la parabole fameuse de l'âne de Buridan, l'âne qui, privé de libre arbitre, était condamné à mourir de faim entre deux picotins d'avoine. Jean Buridan propose pour le mouvement des projectiles une théorie qui s'oppose aux thèses aristotéliciennes, thèse qui affirmait l'action motrice du milieu. C'est cette théorie de Buridan s'appelle la théorie de l'impétus. Elle est sous les formes plus ou moins affinées, une notion active jusqu'à l'aube de la mécanique galiléenne. En lançant un projectile, nous y incorporons, pense Buridan, un certain impétus, une certaine réserve de mouvement. Plus un corps contient de matière, et plus il peut recevoir d'impétus. Comme cet impétus est aussi proportionnel à la vitesse, on peut dire que cette notion d'impétus préfigure la notion scientifique que les mathématiciens modernes désignent sous le nom de quantité de mouvement et posent comme l'exact produit, de la masse par la vitesse. Corrélativement à cette doctrine, Buridan affirme que cet impétus durerait indéfiniment s'il n'était pas diminué par la résistance du milieu où se déplace le projectile. C'est donc bien là un germe de notre principe de l'inertie. Un disciple de Buridan, Nicole Oren, apporte de nouvelles objections à la mécanique aristotélicienne. Oren est né vers 1320. En 1362, il est maître au Collège de Navarre à Paris. En 1377, il devient évêque de Lisieux, où il mourut en 1382. Oren est un mathématicien né. L'historien des mathématiques Maurice Quentin a pu dire qu'Oren était un précurseur de Descartes en ce qui concerne l'invention des coordonnées, invention qui est, comme on le sait, à la base de la géométrie analytique qui a fait la gloire de Descartes. Dans le style moderne, on peut dire qu'Oren donne des représentations d'une qualité particulière en fonction d'une quantité attachée à une autre qualité. Il fait en somme des courbes de représentation. Mais ces représentations n'aborde guère que quelques variations simples comme la proportionnalité. Dans son traité du ciel et du monde, Oren attaque la proposition d'Aristote qui est la base du système de Ptolémée. Il s'agit de l'immobilité de la Terre au centre du monde. Très simplement, Oren déclare que l'on ne pourrait prouver par une expérience quelconque que le ciel se meut en 24 heures et que la terre ne se meut pas. Et il couvre d'objections minutieuses toutes les thèses, tant physiques que morales, que les scolastiques opposaient à toute idée du mouvement de la terre. C'est ainsi qu'on a pu dire de Nicole Oren qu'il était un précurseur de Copernic. Parfois, parmi les arguments, judicieux, un argument nous étonne, tel celui-ci. Dans l'hypothèse du mouvement du ciel,
Ne faudrait-il pas, demande Rennes, que la grande ours, le grand chariot, aille acculant le char devant les bœufs. Comme le dit René Dugas dans sa belle histoire de la mécanique, il y a à la fois du meilleur et du pire dans les arguments de Rennes au sujet du système du monde. On comprend bien ce mélange d'arguments que, si l'on se rend compte de l'aspect tout polémique de la pensée scientifique dans cette période de transition. En fait, les notions étaient sans cesse abandonnées, reprises, rectifiées et diversifiées. L'impétus chez Nicolas de Cuse, qui vécut de 1401 à 1464, n'est déjà plus tout à fait l'impétus de Buridan. Les notions ne trouveront leur stabilité que lorsqu'elles pourront être définies mathématiquement. La Renaissance elle-même n'effectuera pas totalement à cet égard le travail ébauché au Moyen-Âge. Il faudra venir à Copernic, il faudra venir à Galilée pour voir s'établir vraiment l'astronomie et la mécanique moderne.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, la pensée grecque et l'esprit scientifique. Aujourd'hui, l'astronomie dans la Grèce antique et l'évolution des sciences au Moyen-Âge, 1954. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evano, Marc-Hubert Florio. I'm not going to be able to do that.